d'être avec vous. J'étais tellement heureux de pouvoir les voir de nouveau hier, surtout après tout ce qui s'est passé. Nous avions beaucoup prié pour Pasteur Chantal quand ce virus est venu faire des choses qu'il ne fallait pas faire. Mais nous sommes tellement heureux de voir comment Dieu l'a restauré. Nous croyons dans un Dieu de restauration. Amen. Un Dieu qui nous aime et qui aime toujours son peuple et qui sera toujours avec nous. Amen. Vous êtes tous beaux ce matin. Amen. Vous avez les salutations de mon église, le Centre chrétien Parole vivante, mais aussi de mon épouse, Annelise. Et sans plus tarder, je voudrais vite donner un témoignage pour ceux d'entre vous qui l'avaient su. Mon épouse Annelise, le 22 janvier 2022, a été attaquée par un AVC, un stroke, comme on dit en anglais. Et vous savez, quand on parle d'un AVC, on parle de quelque chose qui doit se régler en quelques secondes. Le plus vite possible, vous devez aller à l'hôpital. Lorsque j'ai vu l'AVC, ma fille Gabriella était là, nous avons prié pour elle, elle est tombée dans un coma que j'appelle un coma protecteur. Et tout d'un coup, elle ne sentait plus rien, mais elle était complètement KO, hein, elle était finie. Hein. L'ambulance, ayant compris que c'était un AVC, est venue avec deux médecins au lieu de un. Et quand ils sont arrivés, ils ne pouvaient pas la transporter. Elle est restée une heure à la maison. Ensuite, quand ils l'ont mise dans l'ambulance, ils l'ont entubée et tout, et ils sont partis. Et ils ont téléphoné à l'hôpital pour avertir l'hôpital de s'attendre à ce qu'elle soit morte ou paralysée. Vous savez, quand on a un AVC autour de la tête, souvent c'est dans les carotides, on en a deux des carotides. Quand une est bouchée, l'autre compense et l'oxygène passe. Mais les deux carotides ensuite reviennent vers une seule artère qui est la basilaire. Et c'est dans la basilaire qu'elle a eu sa trombe. Donc on ne comprend pas, mais pratiquement pendant 4 heures, elle n'a eu pratiquement pas d'oxygène. Voilà pourquoi ils ont dit morte ou paralysée. La bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est ni morte ni paralysée. Le médecin me téléphonait pour demander si on pouvait l'opérer. Je lui dis, mais bien sûr, c'est pas que j'avais envie de me débarrasser de ma femme, moi. Qu'est-ce que je ferais sans elle, amen. Ou, qu'est-ce qu'elle ferait sans moi aussi, hein, c'est vice-versa. Hein. Et elle l'a opéré, et puis mon téléphone, ils m'ont dit, écoute, l'opération s'est bien passée, maintenant on va voir ce qui va se passer. Mais on l'a mis dans un coma artificiel, ce qui est tout à fait normal. On la réveillera peut-être mercredi ou jeudi, c'était un samedi. Le soir, l'autre médecin du shift vient, téléphone, il dit « Bonjour, je voudrais vous mettre un peu au courant de la situation. Voilà, on l'a opéré. » Je dis « Oui, je sais. » J'ai déjà parlé. « Ah, vous avez parlé avec le médecin, c'est très bien. Et comment va-t-elle ?»« Ben, écoute, je vais bien. Je parle avec elle à tantôt. » Attends, comment, vous parliez avec elle ?»« Mais vous l'avez mis dans un coma artificiel. »« Ah oui, je sais, mais c'est réveillé. Ah » Vous avez déjà vu quelqu'un se réveiller dans un coma artificiel ? Moi, je n'en avais jamais vu. Ça fait 45 ans que je suis dans le ministère, je n'en ai jamais vu. Et je dis, je peux parler avec elle. Et on était à trois enfants, mais deux enfants à moi, et moi, on était là à la maison. Et chacun, on a parlé à elle dans une langue différente. Et à chacun, elle a répondu dans la langue avec laquelle on a parlé. Ma femme est restée à l'hôpital pendant 10 jours, mais c'était catastrophique. Alors tout ce qu'elle a eu vraiment comme dégâts, c'est des problèmes au niveau des muscles qui coordonnent les yeux. Vous savez, pour que vous voyez droit, pas de travers, pas de trouble, pas avec des lignes partout. Vos muscles, il y a une centaine de muscles qui, à peu près, qui coordonnent la vision. Et c'est là qu'elle a eu un gros problème. Mais imaginez-vous, pratiquement pendant 4 heures sans oxygène, ou presque pas. Et on lui a mis des prismes pour qu'elle voie, niveau 8 et niveau 4, maintenant elle est niveau 3 et niveau 0. Amen. Mais lorsqu'on est allé la prendre à l'hôpital, c'était période Covid, on ne pouvait pas aller la voir. Elle parlait très bien, on pensait que tout allait bien, mais quand on l'a vue, ma fille a pleuré toute la journée. Elle était sur une chaise roulante, comme ça, les yeux retournés à l'intérieur, elle ne pouvait pas voir, elle ne pouvait pas ouvrir ses paupières. À peine un quart de millimètre pour voir la personne. Alors maintenant, si j'étais mince comme avant, elle ne m'aurait pas vue, hein. Heureusement, j'étais encore gros à ce moment-là. Enfin, ce n'était pas moi qui étais gros, c'est Donato. Moi, je suis Joseph, on ne parle pas dit. Je suis le frère jumeau, mais je suis beaucoup plus beau. Hein. J'ai perdu 30 kilos. Amen. Et on l'a apporté dans une clinique de réhabilitation. Hier, c'est 3 mois. Mais si vous la voyez aujourd'hui, ne pensez même pas qu'elle a eu un AVC. C'est exceptionnel. Amen. C'est la grâce de Dieu. Ce jour-là, c'était passé le matin. Il y avait toutes sortes de conséquences, de situations spéciales. Ma fille devait être au travail. Elle n'a pas, ils ont changé le shift. Mon fils, je devais le conduire à la frontière suisse, à 20 km de chez nous. Et ma femme devait partir chez le coiffeur toute seule en voiture. La bonne chose, c'est que ma fille, elle est restée. Mon fils est allé tout seul. Donc, j'étais avec ma fille. Et ça s'est passé avant qu'elle parte en voiture. Et la grâce de Dieu est toujours là. Amen. Et ce jour-là, une fois que tout est passé, qu'on avait passé toute la période difficile, j'étais fait ma douche finalement, il était peut-être 10h, 11h, et je cherchais un chant. Et j'ai trouvé un chant que je ne connaissais pas, d'un homme que je ne connaissais pas. Plus tard, j'ai vu que ce frère-là, qui est à New York, un de ses chants, dans YouTube, c'est 120 millions de vues. Plus que certains groupes ultra connus dans le monde entier, ou presque plus. Et le chant s'intitule « Ma vie est entre tes mains ». Et c'est le chant que Dieu m'a donné pour faire face à cette tempête. Et je voudrais vraiment vous encourager. Voyez-vous, les chants que vous avez chantés aujourd'hui sont des chants scripturaires. Il y a beaucoup d'églises qui chantent des chants émotionnels, des chants presque sensuels. Ils disent, certains chants disent, « Oh, laisse-moi venir tout près de toi, à Jésus. Laisse-moi t'embrasser, entendre le battement de ton cœur, te tenir bien fort dans ma main. » C'est très joli, mais très souvent, si vous arrivez à changer le nom de Jésus en y mettant le nom de votre fiancé ou de votre fiancée, ça ne change même pas rien au sens du chant. Alors, de temps en temps, on peut dire quelque chose comme ça à Jésus, mais vous ne pouvez pas le faire tout le temps. Il faut une base doctrinale dans nos chants. Amen. Hein? Comme un des derniers chants disait, « Je parle à cette montagne, je parle à ces choses, les murs s'écroulent. » Amen. Alléluia. Hein? Et donc, c'est important. Voilà pourquoi c'est bon d'être à la maison ici. Amen. Et vraiment, je me réjouis d'être avec vous. Alors, je me suis dit, j'ai traduit le chant français et je vais vous le chanter. Vous êtes d'accord? Mais vous allez devoir vous lever et probablement vous allez chanter le refrain avec moi. Amen. Est-ce qu'on peut mettre ce micro et enlever l'autre? Merci. J'espère que je me rappelle encore. Hein. Vous pouvez mettre un petit peu plus fort. Là. Voilà, merci, parce qu'il n'y a pas de retour aussi. Et la voix aussi, je crois? Alléluia. Ne te préoccupe pas, nul besoin d'avoir peur. La joie viendra le matin, les problèmes ne durent pas. Jésus est un ami véritable qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, déclare avec fermeté, je sais que je peux y arriver. Ferme, je tiendrai, peu importe qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Ne te préoccupe pas, nul besoin d'avoir peur. La joie viendra le matin, les problèmes ne durent pas. Jésus est un ami véritable qui
qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, déclare avec fermeté, je sais que je peux t'y arriver.
Ferme,
ferme, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains.
Quand les épreuves arrivent.
Quand les épreuves arrivent pour te décourager, et si tous tes amis, tu ne peux plus les trouver, sache que Jésus est ton ami qui essuie toutes tes larmes. Et si ton cœur est brisé, déclare avec fermeté, je sais que je peux t'y arriver. Ferme, je tiendrai. Peu importe ce qui peut arriver, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Je sais que je peux y arriver. Ferme, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Ensemble, je sais que je peux t'y arriver. Ferme, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Avec Jésus, j'y arriverai. Avec lui, je tiendrai. Peu importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains.
Alléluia!
Ma vie est entre tes mains. Ma vie est entre tes mains.
Alléluia! Notre vie est entre les mains du Seigneur. Alléluia! Quelqu'un qui peut dire à ton voisin, ma vie est entre ses mains. Waouh! Et vous savez, ça aide beaucoup quand on se trouve dans la bonne église de Dieu. Vous savez, je me répète régulièrement dans le monde entier, mais je le dis constamment, la doctrine que les gens de l'église se souviennent, c'est celle qu'ils chantent dans les chants. C'est presque décevant pour nous qui ne sommes pas sœurs, parce qu'on donne des études bibliques, on enseigne tout le temps. Mais si nos chants ne correspondent pas à ce qu'on enseigne, les gens vont se rappeler des chants et pas de l'étude biblique. Voilà pourquoi c'est tellement nécessaire d'avoir des chants qui proclament la grandeur de Dieu, des chants qui proclament votre confiance au Seigneur. Et quand j'ai entendu ce chant, c'est extraordinaire parce que je l'ai entendu une chorale, et puis j'ai recherché d'autres fois, et le chanteur qui s'appelle Kirk Franklin, qui a écrit le chant, qui a écrit d'autres chants, se retrouvait en Floride, dans une prison. Et ils ont fait, je crois, en 2013, ou quelque chose comme ça, le plus grand événement en plein air dans une prison aux États-Unis. Il y avait 1500 prisonniers. Et vous savez, il y a beaucoup de prisonniers qui sont là pour de grandes choses, d'autres pour de moins bonnes choses, mais personne n'a un bel avenir quand on est en prison. Et si vous avez l'occasion d'aller voir sur l'Internet, sur YouTube, vous allez voir, vous voyez ces centaines de prisonniers, ces milliers de prisonniers. Ma vie est entre tes mains. Alléluia, amen. Et quand vous chantez des chants comme ça, votre esprit se relève. Amen. Et c'est tellement important. Amen. Waouh. Il y avait une petite fille qui se rendait régulièrement à l'école, bien sûr, tous les jours à pied. Et souvent, le temps n'était pas certain, comme aujourd'hui, par exemple. Vous m'avez accueilli finalement avec la neige. Je vous ai dit, je suis à la maison ici. Hier, ce n'était pas la neige. Avant-hier, ce n'était pas la neige. Jeudi, ce n'était pas la neige. Je me disais, mais je suis au Canada où je suis, moi, ici. En mois de mars, pas de neige. Mais j'étais tellement content. Pasteur Réal avait prophétisé hier. Il avait des bonnes informations, météo Canada. Qu'il y allait avoir la neige, et je me disais, mais un petit peu, c'est vrai, un petit peu, mais c'est beau de voir la beauté tout blanc et tout. Quand le manteau de neige est sur le Québec, bah, c'est un autre pays, amen. Donc là, il y avait des nuages et tout, au cours de l'après-midi, le vent s'est levé, accompagné d'éclairs. Et comme la maman de la fillette avait un petit peur, était inquiète, elle dit, peut-être que la fille va avoir peur, elle est allée la chercher. Et quand elle arrive près de l'école, elle voit sa fille déjà marcher. À chaque fois qu'il y a l'éclair, elle fait comme ça. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis elle arrête sa fille, dit, monte dans la voiture parce qu'il pleut maintenant. Elle dit, mais pourquoi tu fais comme ça quand il y a l'éclair? Oh, mais c'est parce que Dieu me prend en photo. Alléluia. C'est merveilleux de pouvoir affronter la vie comme des enfants, n'est-ce pas? Les parents sont inquiets, mais eux, ils ont la foi. Vous savez quoi? Ils ont la foi que Dieu change toujours le mal en bien. C'est ça, la foi des enfants. Certes qu'au départ, on a tous un petit peu saisi par le bruit du tonnerre et de l'éclair, mais un enfant sait que tôt ou tard, le beau temps arrive, c'est la pluie après, la fragrance après la pluie, le beau temps après la pluie. Amen. Je voudrais parler aujourd'hui d'un thème qui est tellement important et je crois qu'on l'a tous passé ce thème-là dans notre vie, c'est comment affronter les tempêtes de notre vie, mais de la manière dont Dieu, dont Jésus les a passées. Amen. Parce qu'en fait, si on suit les exemples de Jésus, ça va nous aider à sortir de toute confusion. Vous comprenez ce que je veux dire? Par exemple, on a des fois l'impression qu'on doit tout faire de la même manière tout le temps. Par exemple, il y a des tensions dans la vérité qui sont importantes, mais ce sont des vérités qui ont l'air d'être paradoxales, mais qui sont importantes et idem. Par exemple, vous avez la vérité de l'autorité du croyant. Vous dites à cette montagne au toit de là, elle part. Mais il y a un moment où vous devez peut-être arriver dans l'autre vérité paradoxale, qui est celle de la prière. Dire, Seigneur, ici, je crois que je dois prier plutôt que utiliser mon autorité. C'est comme, par exemple, quand il y a des tentations avec la chair et tout, il y a des fois, deux possibilités, soit c'est vraiment la chair et vous devez résister à la tentation, des fois c'est l'autre contraire, c'est vraiment c'est une attaque démoniaque qui vous harcèle et vous devez ordonner à l'ennemi de partir. Maintenant, c'est plus souvent la chair qu'une attaque. Mais je sais que pour nous chrétiens, c'est plus facile de dire « Démon, je te chasse de ma vie » que de dire « Chair, je te crucifie ». C'est comme cet homme qui vient chez moi à mon église, j'étais encore jeune pasteur, me dit, oh, pasteur, tu dois savoir, moi, j'ai un problème avec les femmes. Ah bon? Il était jeune, il devait avoir une trentaine d'années. Oui, pasteur, à chaque fois que je vois une femme et que je parle avec elle, on finit toujours dans le lit. Est-ce que tu peux prier pour que le démon sorte de ma vie? Parce que c'est le démon qui me pousse à faire ça. Je lui ai dit, écoute mon ami, ce n'est pas contre le démon que je dois prier pour que tu te maries. Mais après, je vais devoir prier pour ta femme, pauvre femme. Oui, oui, c'est trop facile toujours de dire, c'est le démon, c'est le démon, c'est le démon, c'est le diable et tout. On doit arrêter de nous déresponsabiliser et nous rappeler de faire la part juste des choses. Mais même si c'est une attaque, une tentation, moi que je sache, lorsque Potiphar est venu tenter Joseph, il a fait ce que Dieu lui a dit de faire. Voyez-vous, la Bible ne dit jamais qu'il faut résister la tentation. C'est une grande erreur de beaucoup de chrétiens. La Bible dit qu'il faut fuir la tentation. Hello? Amen. Donc, si j'étais Joseph, maintenant, ça fait maintenant 40 ans que je suis marié, pratiquement, et qu'une femme comme Potiphar vient, je fuis la tentation, puis je dis, « Oh Seigneur, délivre-moi des femmes !» Sauf la mienne. Je rigole. Rappelez-vous quand Jésus a dit, « Les pécheurs, vous en aurez, les pauvres, vous en aurez toujours, ben, les femmes, vous en aurez toujours autour de vous. Hein? » Mais il faut savoir aussi fuir la tentation quand la tentation est là. Le danger de beaucoup de gens, c'est de dire, tu vas voir comment je vais résister. Un de mes amis, mais une bêtise. Sa femme a eu un gros problème lors de l'accouchement. Et le médecin a dit, écoutez, vous devez à tout prix éviter d'avoir un autre enfant, sinon elle va mourir. Vous savez, quand le médecin vous dit éviter d'avoir un autre enfant, il y a quand même des moyens maintenant pour ne pas les avoir. Naturels, moins naturels et tout. Mais il était fort. Il a décidé d'une abstinence totale avec sa femme. Vous comprenez qu'un jour, il est tombé dans les bras d'une autre femme. Mais quelle bêtise! Fuis la tentation, n'essaye pas de la résister. Si on essaye de résister la tentation, mes amis, nous allons tomber. Allô? Amen. Dans les Écritures, une tempête désigne un ensemble de circonstances défavorables. Bien sûr, après, il a demandé pardon, il s'est repenti, il a pris le temps pour la restauration, et après 30 ans, il est toujours avec sa femme. D'accord? Lorsque la Bible parle d'une tempête, l'auteur évoque des événements négatifs qui surviennent dans la vie. Une tempête est souvent un synonyme d'ennui, de tribulation et d'épreuve. Les tempêtes cherchent à bouleverser les personnes d'une manière mentale, émotionnelle, physique et spirituelle. Je pense que chacun d'entre nous, nous avons eu des tempêtes. En fait, nous sommes tous, soit maintenant, en présent, en ce moment, présentement, dans une tempête, ou nous sommes en train de sortir d'une tempête, nous avons une tempête, ou nous sommes sur le point d'entrer dans une tempête. Donc, il est important pour nous de savoir comment les affronter. Ce qui est dommage dans la vie de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils attendent que la tempête vienne pour savoir comment s'y prendre. Ils attendent que la maladie arrive pour téléphoner au pasteur. « Pasteur, tu peux me donner l'ABC de la foi ? Comment ça fonctionne ? Hello ?» La raison pour laquelle mon épouse est restée vivante, sans pratiquement aucun dégât. La raison pour laquelle pasteur Chantal s'en est sorti. Alors qu'à ce moment-là, c'était 2020, il n'y avait pas de médicaments. Il n'y avait rien. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils avaient bâti leur vie sur les principes de la parole de Dieu à l'avance, sur les principes de la foi. Ils ont enseigné la foi avant, ils ont enseigné la foi pendant, et ils enseigneront la foi encore plus tard. Mais si on a dit, ah, de toute façon, moi, je n'ai pas besoin d'aller aux études bibliques, je n'ai pas besoin d'entendre les podcasts, je n'ai pas besoin d'entendre les enseignements, alors qu'est-ce qui se fait ? On commence à vivre une vie diluée. On ne connaît pas les principes de la parole de Dieu, les principes de la foi. En fait, apprendre avant que ça vienne, c'est un petit peu comme le psalmiste dit, « Tu exerces mon bras au combat ». Donc, lorsque ma fille, pour ceux d'entre vous qui se rappellent de son histoire, est née handicapée il y a 32 ans, elle devait mourir à 14 ans, elle ne pouvait ni marcher ni parler, elle n'avait aucune motricité. Elle avait un virus qu'elle avait reçu dans le ventre de sa mère qui s'appelle le CMV, cytomegalovirus, un virus qui vient dans le cerveau, qui gèle les cellules du cerveau et les détruit. Il n'y a aucun remède encore aujourd'hui contre le CMV. Mais la bonne nouvelle, c'est que ma fille a été guérie à l'âge de 3 ans par la déclaration de la parole de Dieu. Mais elle n'est pas morte à 14 ans. Aujourd'hui, elle a, ensuite, à 19 ans, elle est allée vivre aux États-Unis, elle a fait l'école biblique là-bas. Elle est revenue, elle est allée en Belgique, parce que nous, on habitait déjà en Suisse, et elle a fait des cours d'infirmière. Aujourd'hui, elle est sous-chef infirmière dans la capitale de la Suisse italienne. C'est une prédicatrice extraordinaire. Amen. Mais, je vais vous dire pourquoi elle a été guérie, en ce qui me concerne. C'est que j'avais appris des années auparavant les principes de la foi que vous apprenez ici chaque semaine. Amen. N'est-ce pas, pasteur ? On est d'accord ? N'attendez jamais que la tempête arrive pour apprendre à affronter la tempête. Vous devez exercer votre bras au combat. Aucun militaire, vous savez, les objecteurs de conscience, moi je suis militaire. Maintenant, je suis major en Belgique, mais major aumônier militaire. Donc, je suis un pasteur à l'armée. Mais j'ai une formation. Toute ma formation était une formation d'officier supérieur. Et ensuite, je suis devenu aumônier. Mais vous savez, en cas de guerre, tous les objecteurs de conscience qui ne voulaient pas faire le service militaire, qui refusent... Ce sont les premiers qu'on enverra à la guerre. Ah ! Ils n'ont qu'à se faire tuer. On envoie à la guerre, d'abord, au front, ceux qui ne sont pas préparés. Et on tient bien derrière ceux qui sont préparés. Une fois qu'on a fait un peu de dégâts avec les autres, même si les nôtres sont morts, ce n'est pas grave, les meilleurs viennent. Vous devez être les meilleurs, mes amis. Amen. Et pour ça, vous devez vous préparer à l'avance. Amen. Et croyez-moi, ce n'est pas en un mois d'instruction juste avant de partir au front où on vous a appris à tirer avec une mitraillette que vous allez aller loin. Amen. Hein? Et c'est la même chose. Ce n'est pas parce que vous allez prendre 3 semaines pour vous établir dans les principes de la foi, les principes du combat, le vrai combat spirituel qui est celui de déclarer la parole de Dieu, de comprendre ce que la Bible dit, que vous allez vous y arriver. Vous devez vous préparer continuellement. Ah, mais moi j'ai entendu ce message tellement de fois. Ben écoute, continue à l'entendre parce qu'un jour viendra où tu en auras besoin. Amen. Amen. Paul sait très bien de quoi je parle. Dans Actes 27, les versets 9 à 31, on voit l'histoire où Paul va partir à Rome. Il se trouve sur un bateau. Le centurion ne veut pas hiverner. Vous savez, à l'époque, on restait tout l'hiver pour éviter les grands froids de la Méditerranée, éviter les tempêtes et tout, du froid et tout. Et donc, on hivernait. Et il ne voulait pas hiverner. Ça voulait dire rester 3 mois dans le port. Il y avait des frais, et puis loin de la famille, etc. Et tout. Et il a décidé de partir. Et d'ailleurs, il partit parce que le timonier, le capitaine du bateau, avait vu un vent, le roquillon. Et il a dit, c'est un bon vent, on peut y aller. Paul dit, n'y allez pas. Et on sait très bien qu'à cause de ces roquillons, le roquillon disait que ça allait être bon, mais croyez-moi, tout ce qui commence par le mot « euro » n'est pas toujours bon. Oh ! Amen. Et on connaît l'histoire, il va avoir la tempête. D'ailleurs, on va lire quelques versets, les versets 20 à 23, et il dit ceci. « Le soleil et les étoiles ne sont pas apparus pendant plusieurs jours, et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. » Waouh ! Celui qui écrit, c'est Luc. Luc était dedans. Paul avait toute une équipe avec lui. Il dit, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Ça va être difficile pour Pasteur Réal. Maintenant, comme je suis là, je peux manger, pas manger pendant longtemps. Alors, Paul, debout au milieu, leur dit, mes amis, là c'est le grand moraliste, là, vous auriez dû m'écouter. Et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Amen. Alors remarquez ici que l'ange qui lui est apparu n'est pas un ange du diable, mais un ange du Dieu auquel Paul appartient. Mais pas seulement que Paul appartient à ce Dieu, il sert aussi ce Dieu. Amen. Et je vous encourage tous à appartenir à l'Éternel, mais aussi à le servir. Amen. Dans l'Église, il y a toujours des places, des endroits, des positions où on peut servir le Seigneur. Amen. Et puis Dieu ouvre des portes pour le servir encore d'une autre manière. Amen. Donc, en tant que citoyen romain, Paul est allé et il fait appel à César, il va là-bas. Il était prisonnier et se dirigeait vers Rome. Beaucoup d'entre nous voyons une difficulté dans chaque opportunité. Mais Paul voyait une opportunité dans chaque difficulté. Il était en prison, mais il s'est arrangé pour ne pas rester à Jérusalem, mais pour aller voir César à Rome. Amen. Hein? Par exemple, dans Actes au chapitre 16, lorsqu'il est dans la ville de Philippe, la Bible dit qu'il était minuit. Et avec Silas, il chantait des cantiques de louange, il priait Dieu. Amen. Et Dieu est intervenu. Mais écoutez, quand il est minuit dans votre vie, ne pleurez pas, mais chantez les louanges au Seigneur. Amen. Amen. Hein? Et dans Actes 26, il rend témoignage au roi Agrippa. Paul a toujours saisi chaque difficulté de sa vie pour en faire une opportunité pour prêcher l'Évangile. Amen. Maintenant, nous avons vu c'est quoi une tempête. Avant de pouvoir les affronter dans notre vie, ce serait bon de savoir les origines des tempêtes. En fait, il y a 4 origines fondamentales pour les tempêtes de notre vie. Il y a tout d'abord des tempêtes qui sont causées par les lois naturelles. Il y a trop de froid, trop de chaud, il y a de l'humidité, ben ça crée des typhons, des tornades, etc. Et tout. La Bible dit que Dieu envoie le soleil et la pluie aux justes et aux injustes. Cela fait partie des lois naturelles. Amen. On ne doit pas avoir peur de ces tempêtes dans la vie. Il y a des tempêtes naturelles dans la vie, elles sont là, on les connaît et tout. Même dans la vie de tous les jours, il peut y avoir des difficultés qui sont naturelles parce qu'on a enclenché des lois naturelles qui causent des tempêtes. Ça, c'est naturel. Amen. La bonne nouvelle, c'est que vous avez toujours autorité sur les lois naturelles. Amen. Ensuite, il y a des tempêtes dans nos vies qui sont causées par une rébellion personnelle. Vous savez, tellement de chrétiens, quand vous leur dites « tu es dans la rébellion », « oh non, 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 je ne suis pas dans la rébellion ». Le fait même d'être dans la rébellion aveugle les gens. Mais si votre pasteur vous dit « écoute, il me semble que tu es en train d'agir avec un esprit de rébellion, avec une mentalité de rébellion », croyez votre pasteur. Vous ne le voyez pas, mais votre pasteur le voit. Peut-être même que des frères et des sœurs le voient. Mais pour une raison ou une autre, la rébellion de quelqu'un, aveugle, lui faire croire qu'il est dans le juste, qu'il est dans le droit, il est arrivé à un point où même sa faculté de comprendre, de saisir, d'analyser est complètement voilée par sa rébellion. Vous vous rappelez bien, Jonas, Dieu lui dit d'aller à Ninive, et où va-t-il ? À l'opposé, à Tars. Certains pensent que c'est Tars en Turquie, d'autres pensent que c'est Tars en Espagne, qu'importe où c'était. L'important pour nous, c'est de savoir qu'il a fui l'appel de Dieu. Vous savez que la rébellion, ce n'est pas toujours un acte contre, c'est aussi un acte de ne pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Allô ? Et savez-vous, l'appel de Dieu est irrévocable. Amen. Hein? L'appel de Dieu est donné et il est sans repentance et il est irrévocable. C'est-à-dire que quand Dieu nous appelle et nous demande de faire quelque chose, cet appel nous poursuivra jusqu'à ce que nous le fassions. Moi, j'ai connu des gens à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans, qui pleuraient devant moi. Ils disaient, quand j'avais 12 ans, le Seigneur m'a appelé. Je ne l'ai jamais fait, mais tout le temps, je suis persécuté, poursuivi par cet appel. Allô ? Et vous connaissez l'histoire, on ne va pas raconter toute l'histoire, mais par contre, je vais vous raconter ceci. La rébellion est toujours une descente en enfer. Alors vous comprenez que le mot « descente en enfer » reprend le grand poème qui a porté la gloire à Arthur Rimbaud, « La descente en enfer ». Mais pourquoi je dis que c'est une descente en enfer ? C'est simple. La Bible dit que pour partir, au lieu d'aller à Ninive, mais aller à Tars, Jonas descendit au port. Puis il descendit dans le bateau. Puis il descendit dans le fond du bateau. Puis il descendit dans la profondeur de la mer et finalement, il descendit dans le ventre du poisson. La rébellion est toujours une descente en enfer. Il descend dans le port, il descend dans le bateau, il descend au fond du bateau, il descend au fond de la mer et finalement, il descend en plein milieu du ventre du poisson. Amen. On n'a pas le temps d'aller voir, mais regardez ce qui se passe dans le ventre du poisson. Jonas prie et Jonas déclare à l'avance qu'il est sauvé par Dieu. J'ai crié, tu m'as répondu. Et en fait, il prend plusieurs psaumes, il les déclare et Dieu l'a sauvé. Amen. Amen. Alors vous comprenez, c'est une tempête causée par sa propre rébellion. Je voudrais vraiment que vous voyez cela. Dans la Bible, c'est une petite parenthèse, mais c'est une parenthèse qui peut sauver votre vie. Dans la Bible, la fin de tous les rebelles, mais aussi de ceux qui suivent les rebelles, c'est la destruction. Il n'y a pas un rebelle dans la Bible qui n'a pas été détruit. Ça ne veut pas dire la mort tout le temps, mais c'est toujours la destruction. Y compris ceux qui les suivent. Quand les fils de Corée se sont rebellés contre Dieu, non seulement les fils de Corée sont morts, mais tous ceux qui les ont suivis sont morts. Mais il y a d'autres dans la parole de Dieu qui ne sont pas morts, mais ils ont été détruits. Leur appel ne s'est pas formé. Les plans de Dieu ne sont pas réalisés comme ils voulaient. Pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce qu'eux ont refusé de suivre le Seigneur. Amen. Il y a aussi, bien sûr, des tempêtes qui sont formées par l'ennemi pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu. Pensez donc à Joseph, ses frères, Potiphar, la femme de Potiphar, la prison, etc. etc. Matthieu 8, on voit que Jésus ordonne des disciples de se rendre de l'autre côté de la rivière, du lac, et une tempête arrive. Il est clair qu'elle arrive pour les empêcher de faire ce que Dieu voulait qu'ils fassent. Et finalement, il y a aussi des tempêtes qui sont causées par les autres. Allô ? Comment s'appelait... Vous avez déjà lu le livre de Noémie dans la Bible ? Vous connaissez le livre de Noémie dans la Bible ? Non, il n'y a pas de livre qui s'appelle Noémie. C'est Ruth. Mais il aurait pu vraiment s'appeler Noémie, parce que le personnage clé du livre, qui est mentionné même plus que Ruth, c'est Noémie. Comment s'appelait son mari ? Non, non. Ça, c'est le mari de Ruth, le mari de Noémie. Élimélec. Mélec veut dire roi, Élie veut dire Dieu. Il s'appelait Dieu est mon roi. Où est-il allé lorsqu'il y a eu la famine ? Il est parti à Moab. Moab était le grand ennemi du peuple de Dieu. Dieu ne l'a pas envoyé à Moab. Élimélec est devenu Moamélec. Moi, je suis roi. Il a pris ses propres initiatives. Il a fait ce qui lui semblait bon à ses yeux. Et la Bible dit, comme résultat, il est mort, ses deux fils sont morts. Elle rentre à la maison, Noémie, vous connaissez l'histoire, Oprah s'en va, mais Ruth vient. Et puis tout d'un coup, elle arrive, tout le monde dit, mais n'est-ce pas Noémie ? Noémie veut dire femme de grâce, gracieuse. Elle dit, ne m'appelez plus Noémie, parce que Dieu, appelez-moi Mara, qui veut dire amère, parce que Dieu m'a rendu amère. Non, vous comprenez que lorsqu'elle a dit « Dieu m'a rendu amère », ce n'est pas la vérité. Voyez-vous, c'est vrai que ce qu'elle a dit, elle l'a dit, mais ce qu'elle a dit n'est pas une déclaration de vérité. Dans la Bible, vous devez voir et faire la différence entre une déclaration qui a été dite et une déclaration qui est une affirmation de la vérité. C'est vrai qu'elle l'a dit, mais ce qu'elle a dit n'était pas vrai. Dieu ne vous rend jamais amère. L'amertume, c'est nous qui la créons. C'est nous qui changeons le mal qui a été fait en une amertume contre quelqu'un. Amen. Mais remarquez qu'en bout de quelques années, donc, elle est victime d'une tempête dans sa vie causée par son mari qui a décidé d'aller là où il ne fallait pas aller. Et elle arrive là-bas et puis tout d'un coup, Ruth va s'occuper d'elle, de la veuve, maman veuve. Elle va porter à manger, et vous connaissez l'histoire, elle rencontre Boaz, etc. Et tout. Elle se marie avec lui. Du jour au lendemain, la femme la plus pauvre du village devient la femme la plus riche du village. Moi, je crois dans la prospérité biblique. Hein. Amen. Et elle enfante Obed, qui devient le grand-père de David. Mais que chantent les femmes ? Dieu a donné un enfant à Noémie. Elle n'avait plus d'héritier. Mais à travers Ruth, Obed est devenu son propre enfant. Malgré le fait que l'ennemi avait détruit sa vie à cause d'une erreur, d'une bêtise, d'une mauvaise décision de son mari, Dieu a restauré sa vie. Dieu a donné un enfant à Noémie. Amen. Wow. On a vu un petit peu les quatre causes. On va aller plus vite maintenant. Comment gérons-nous les tempêtes de la vie ? Bon, je crois que vous connaissez les tempêtes, vous savez ce que c'est. Peut-être l'idéal, c'est de voir un petit peu comment Jésus les a affrontées. Jésus, d'abord, dans Matthieu 8, 18 et 28, on ne va pas le lire, mais on voit que Jésus ordonne aux disciples de se rendre de l'autre côté du lac. Amen. Et vous vous rappelez, Jésus dort dans la barque. C'est marrant. Jonas dort dans la barque, ça cause la tempête. Mais il est la cause de la tempête. Jésus dort dans la barque, mais il est la bonne personne. Jonas, on le jette dehors, Jésus, on le tient. Ayez toujours Jésus dans votre barque, amen. Et il se lève et il va arrêter la tempête, amen. De l'autre côté du lac, qu'est-ce qui se passe ? Quand ils arrivent, il y a deux hommes possédés de démons qui attendent leur délivrance. Écoutez-moi ceci. Quelquefois, la tempête vient parce que de l'autre côté de notre tempête, il y a quelqu'un qui a besoin de nous. Moi, je demande toujours, Dieu, délivre-moi de la tempête. Mais peut-être que c'était parce que l'ennemi voulait m'empêcher d'y aller. Et au moins, je sais, je me prépare que de l'autre côté, il va y avoir de grandes choses de la part du Seigneur. Amen. Hein? Et donc, par son autorité, Jésus va parler contre la tempête, il va dire, calme-toi, tais-toi, silence. On a bien sûr la tentation de toujours vouloir imiter Dieu et Jésus. À chaque fois qu'il y a une tempête, je te l'ordonne, va-t'en, va-t'en. Et puis quand ça ne part pas, on est dans la confusion. Ça ne marche pas toujours son truc. À mon avis, ce n'est pas pour nous. Oui, Paul, oui, parce qu'il est grand, mais Jésus aussi, mais moi, qui suis-je? La Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Tu as la même autorité que Jésus. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut toujours faire cesser le vent et la pluie? Il y a des moments où ça ne marche pas toujours comme ça. Et en tant qu'étudiants de la parole de Dieu, nous devrions nous demander si l'histoire de Jésus qui calme la tempête s'applique à toutes les tempêtes auxquelles nous devons être confrontés. Abraham Maslow, l'Américain qui a inventé ce qu'on appelle la pyramide des besoins, la pyramide de Maslow, a dit un jour, je suppose qu'il y a une forte tentation que si le seul outil dont vous disposez en main est un marteau, de traiter toute chose comme un marteau. Donc, viens ici mon frère, viens. Oui, à toi, oui, toi. On peut l'applaudir, il a peur. Et il a raison d'avoir peur, parce que je parle de marteau. Imaginez-vous qu'il m'énerve, mais la seule chose que j'ai en main, c'est un marteau. Et tout d'un coup, j'ai une vision, j'ai une hallucination, c'est plus un homme, c'est un clou. Boum ! Boum ! On a l'impression que tout ce qu'on est autour de nous devient un clou lorsque la seule chose qu'on a, c'est un marteau. On a l'impression que la seule manière qu'on sait qu'on doit faire quelque chose devient la seule manière de faire quelque chose. Si mon frère m'énervait, je n'ai pas besoin d'un marteau. J'ai besoin de la paix de Dieu et d'une parole qui vient en son temps. La Bible dit qu'une parole douce abaisse. Amen. Hein, et apporte le calme. Merci beaucoup. Ça va, vous n'avez pas eu peur?
Non, pas mal. J'ai pas mal.
Ah, vous n'avez pas mal non plus. D'accord. Amen. Hein. Jésus a-t-il toujours fait face de la même manière aux tempêtes qui lui sont arrivées? L'apôtre Paul a-t-il confronté les tempêtes comme Jésus? Examinons différentes tempêtes dans la vie et voyons comment les gens y ont fait face. Ce sont des questions honnêtes qu'il faut nous poser parce que si on arrive à comprendre qu'il y a d'autres manières d'affronter les frontières, les tempêtes, ça peut enlever beaucoup de confusion de notre vie. Par exemple, lorsque les disciples sont sur l'eau, la barque. Jésus est en train de prier et de loin, il voit qu'ils sont au milieu de la mer et qu'ils sont en grand danger. Vous connaissez l'histoire. Jésus ne calme pas la tempête, mais il marche au milieu de la tempête. Il aurait pu, là, pendant qu'il prie, et se serait calmé. Mais il ne l'a pas fait. Il a décidé de marcher sur la tempête. Non seulement il a marché sur la tempête, mais Pierre a aussi marché sur la même tempête, sur les eaux. Parce qu'on dit qu'il marche sur les eaux, mais c'est une eau pleine de tempêtes. C'était tellement turbulent que quand Pierre va ensuite détourner ses yeux de Jésus et regarder la tempête, schlock, il va commencer à couler. Donc, vous comprenez que si on marche sur la tempête, on ne doit pas l'ignorer, mais on ne doit pas nier que la tempête est là, mais on doit l'ignorer. Thomas. Alors, vous comprenez, oui, viens, s'il te plaît. Vous comprenez que partout où je vais dans le monde, au-dessus, hein, j'ai prêché dans des centaines d'églises. Et j'ai toujours eu des gens minces comme Thomas. Et donc, ça a été toujours un défi pour moi. Je ne suis pas encore là, mais j'y arrive. On l'aime beaucoup, Thomas. Amen. Et toi aussi, bien sûr. Et imaginez-vous que Thomas et ma tempête. Fait comme ça. Oui, oui, plus. Je peux nier qu'elle est là. Il n'y a pas de tempête. On appelle ça, exactement, on appelle ça la méthode Coué. Mais nous, on ne doit pas nier qu'elle est là. La Bible ne dit jamais qu'il faut nier quand il y a une maladie, mais il faut l'ignorer. Et je continue mon boulot. Et puis là, je m'en fiche, ça ne me dérange pas, je continue mon boulot. Non seulement ça, il peut mettre là, sur son piano, et faire la musique. Bom, 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 ah. Je ne dois pas, nier qu'elle est là, mais je dois l'ignorer. Mais si je la regarde, c'est le moment où Jésus dit, fixez vos regards sur Jésus, qui est l'auteur et, je vais dire une autre traduction, le perfectionneur de votre foi. Ça veut dire celui qui la rend en perfection. Tempête ? J'ai peut-être pas la foi complète pour l'attaquer, mais je peux regarder Jésus et il vient rendre ma foi parfaite. Charles Wesley, le grand revivaliste, était aussi un auteur de nombreux chants. Et il a aussi écrit pas mal de chants par rapport aux tempêtes. Il a dit ceci, « Jésus, amour de mon âme, laisse-moi m'envoler vers ton sein alors que la tempête est toujours là. Cache-moi, ô mon sauveur, cache-moi jusqu'à ce que la tempête de la vie soit passée. » Ensuite, il y a des moments où la tempête ne seront pas arrêtées par notre foi, mais par la foi, nous allons traverser la tempête. Lorsque Jésus était sur la barque, après, la tempête s'arrêta. Dans Ésaïe, au 43, verset 2, il est dit, « Quand tu passeras à travers les eaux, je serai avec toi. Et quand tu traverseras les fleuves, ils ne te balayeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne t'embrasseront pas. » Thomas. Thomas, c'est les fleuves de l'eau hein, qui essaient de me faire couler. Essayent de me faire couler. Maintenant, il est vraiment sur moi. Et l'objectif, c'est de me faire mettre en bas. Il dit, mais même si tu marches, et qu'il n'y a que des fleuves, il n'y a que de l'eau, etc. Ils ne te submergeront point. Oui, après, c'est eux qui se fatiguent. Pas nous. C'est une promesse de Dieu, mes amis. C'est une promesse de Dieu. Lorsque ma fille était handicapée et qu'elle ne pouvait rien faire, on n'a pas eu une guérison instantanée, on a eu une guérison progressive. La plupart des guérisons, d'ailleurs, sont progressives, disait le Kenneth Hagin. Mais elles sont progressives, mais dans notre chemin, alors qu'elles nous essaient de nous submerger, nous tenons la tête bien haut. La Bible dit, quand vous voyez le jour approcher, levez la tête, car votre rédemption arrive. Amen. Merci, on peut l'applaudir de nouveau. Il y a un moment où le miracle, ce n'est pas d'arrêter la tempête, mais de la traverser et d'accomplir les desseins de Dieu dans vos vies. Il y a certaines choses où l'ennemi n'arrêtera pas tant qu'il réussira à vous faire arrêter le plan. Mais une fois que le plan de Dieu s'est réalisé parce qu'il n'a pas réussi, l'autre, il arrêtera. En fait, c'est la tempête de notre histoire, hein. Rappelez-vous, la plupart du temps, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. C'est là que Paul se trouvait. Il a même perçu dans son esprit que la tempête allait arriver. Mais il n'y avait rien à faire parce qu'il n'était pas la cause de la tempête, c'était les autres, les décisions des autres. Il était prisonnier, en transit d'Israël à Rome, pour être jugé devant César. Il aperçut un danger imminent, mais parce qu'il était prisonnier, il ne maîtrisait pas toute la situation. Parce que Élimélec a décidé d'aller à Moab, Naomi, soumise à son mari, ne maîtrisait pas toute la situation. Mais elle a eu la sagesse de suivre Ruth et la faveur de Dieu qui était sur Ruth. Au départ, c'est Ruth qui l'a suivie par loyauté, mais après, quand elle a vu la faveur de Dieu, elle s'est dit, moi, je vais suivre Ruth. Suivez le chemin de la faveur de Dieu autour de vous. Il y a des gens dans nos églises, vous ne devez pas aller ailleurs pour ça, il y a des gens dans notre église, on a l'impression que tout ce qu'ils font, il y a la faveur de Dieu sur eux, à commencer par vos pasteurs. Suivez-les. Regardez, observez la faveur de Dieu dans leur vie. Amen. Pourquoi Paul n'a-t-il pas réprimandé la tempête comme Jésus? On ne sait pas. Paul n'a pas réprimandé la tempête de la même manière que Jésus l'a fait, et il ne l'a pas fait cesser immédiatement. Cependant, il existe une grande leçon qui implique pas de spéculation. Elle vient de la simple fait de ce que Paul a réellement fait. En bref, il a prié avec persévérance au milieu de la tempête. Rappelez-vous ce que j'ai dit, il y a des genres de tension paradoxale dans la Bible. J'ai dit à un certain moment, il y a l'autorité du croyant et de l'autre côté, des fois, il y a la prière qui nous montre à nous notre dépendance totale au Seigneur. Amen. Et quelquefois, c'est les deux qu'on fait. Je suis convaincu que quand Pasteur Chantal a été attaqué par le Covid, eh bien que non seulement ils ont pris autorité pour elle, mais ils ont aussi prié pour elle. Vous avez prié pour elle. Moi, j'ai prié pour elle. À 6000 kilomètres, hello ! Mais vous ne croyez pas que Dieu est sourd, il n'avait pas besoin d'un haut-parleur. Hein ? Il entend tout, lui. Amen. Bref, il y a eu de grandes pertes matérielles, ça s'est bien passé. Paul et ceux qui étaient avec lui, toutefois, ont survécu, même si le navire lui-même a été détruit. Paul n'a pas arrêté la tempête comme Jésus l'a fait dans Marc 4, mais il a manifestement prié avec ferveur et ses prières sont efficaces. La déclaration de l'ange « Dieu t'a accordé ceux qui naviguent avec toi » montre que Paul avait prié pour le bien-être des gens qui étaient autour d'eux. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous de l'Église est parti à cause du Covid, je ne sais pas. Dans mon Église, on n'a eu personne qui est parti à cause du Covid et je remercie Seigneur. Mais on a prié pour ça. Amen. Ça peut arriver, hein, je ne dis pas que ce n'est pas possible. J'ai eu beaucoup d'amis qui sont partis. Mais ils sont avec le Seigneur. Paul dit, pour moi, mourir est un gain. Amen. Hein. Paul priait pour eux, il encourageait les gens. Et même si le navire a fini par faire naufrage sur l'île de Malte, Paul a réussi à traverser la tempête avec tous les autres bords. Amen. Ce n'est pas une tempête que Paul a pu arrêter par la prière, mais c'est une tempête que Paul a endurée au travers de la prière. Et quelque chose l'attendait de l'autre côté. Qu'est-ce qui s'est passé? Paul arrive et Paul, prisonnier, va prendre des brindilles d'arbres pour faire du feu. Vous vous rappelez de cela? Et à un certain moment, par le feu, dans une des brindilles, il y avait une vipère. Dans un paquet de brindilles, il y avait une vipère. Et le feu l'a fait sortir et elle a mordu la main de Paul. Rappelez-vous ce qui s'est passé? Rappelez-vous, quand une vipère mordait quelqu'un, par exemple sur la main enflait, le personnage tombait et il mourait. La bonne chose avec Paul, c'est que la main ne s'est pas enflée, il n'est pas tombé et il n'est pas mort. Les gens disaient « Waouh, il doit être un dieu !» Tout près, parce qu'il était un fils de Dieu, comme vous êtes des fils de Dieu. Amen. Et ça, ça a attiré l'attention de tous. Il y avait un homme qui s'appelait Publius, qui était le consul de l'île. Et en parlant avec Paul et les autres, on s'avère que le papa était très malade de dysenterie. Et donc, Paul le voit et il le guérit. Il lui impose les mains. Et puis, il guérit. Et pour la première fois dans l'histoire d'un pays, probablement dans l'histoire, dans toute l'histoire de l'humanité, tous les malades de l'île ont été guéris. Une morsure de serpent, et Dieu a changé le mal en bien. Demande, petite demande parenthèse, quelle main de Paul a été touchée, la gauche ou la droite ? À votre avis ? La gauche et l'autre ? Qu'est-ce que dit la Bible ? Rien. Vous savez pourquoi ? Ça n'a pas d'importance. Parce que Paul imposa les mains, pas une main, mais les mains. Mais une chose est certaine, la main qui avait reçu la mort a porté la vie. Lorsqu'une tempête vient pour apporter la mort dans votre vie, vous pouvez la transformer en vie pour les autres. Amen. Ouh, alléluia. Amen. Parfois, les tempêtes sont envoyées pour nous empêcher d'accomplir la volonté de Dieu pour nous. Un jour, j'étais en train de rouler depuis la Belgique jusqu'en Sicile. 2700 kilomètres. 3 jours. Et à un certain moment, on se retrouve tout près de Naples et une tempête énorme arrive. Plein de sable. C'était tellement dense que l'on ne voyait plus le bout de la voiture, ni devant, ni derrière, ni à gauche, ni à droite dans l'autoroute. Impossible. On était abasourdis. Parce qu'on ne pouvait pas ralentir. On ne savait pas si ça tournait. On ne pouvait pas se mettre sur la ligne de sécurité. Rien. C'était mortel. Là, ce jour-là, il y avait moi, ma femme et la petite Gabriella. J'ai pris l'autorité du croyant. J'ai dit, dans le nom de Jésus, tu t'arrêtes. Et instantanément, tout est parti. Tout était lumineux et on a été épargnés. Mais ce jour-là, plusieurs voitures ont eu des accidents et il y a eu, je crois, une dizaine de morts. Mais Dieu nous avait protégés parce qu'on avait utilisé l'autorité. Mais il y a d'autres fois, je n'ai pas pu faire ça. Mais j'ai dû prier, endurer. Il y a d'autres fois, je me suis rendu compte que de l'autre côté, Dieu voulait que je puisse faire du bien à quelqu'un, mais que l'ennemi voulait m'empêcher d'avoir, de porter quelque chose d'important pour ces gens-là. Amen. Au milieu de la tempête, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu et à résister la peur. Amen. Les résultats de la tempête dans la vie, on le voit dans Actes 27, 23, je vous le lis, « Cette nuit, un ange de Dieu auquel j'appartiens et que je sers s'est tenu à côté de moi. Ce n'était pas le plan de Dieu qu'il navigue, mais cela n'a pas arrêté le plan ultime de Dieu que Paul arrive à Rome. » Amen. Là où Dieu ne domine pas, il passe outre. Il y a deux manières de franchir un mur. Soit de l'écraser, si vous êtes plus fort, soit de passer au-dessus. Si la puissance de l'ennemi nous empêche de l'écraser, passons à côté, passons au-dessus, mais Dieu va toujours nous aider. Amen. Hein? Même lorsque l'ennemi est venu attaquer Adam et Ève, c'était une chose entre Adam et Ève. Dieu ne pouvait rien faire. Il avait donné toute l'autorité à Adam. Mais ça n'a pas empêché le plan final de Jésus de venir sur la croix et d'apporter la rédemption. Amen. Hein? L'Église peut parfois prendre des mauvaises décisions, toutes les Églises. Le pays peut prendre des mauvaises décisions. Mais Jésus a dit que même l'enfer ne pouvait pas arrêter l'Église. Hein? Matthieu 16, 18, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Une chose est certaine, la volonté de Dieu s'accomplira. Peu importe qui se dresse contre vous ou contre lui. Ésaïe 14, 24 dit, « Oui, tout se passera comme je l'ai projeté. Ce que j'ai décidé s'accomplira. » Alors, il y a plusieurs leçons que nous apprenons de ce message. Lorsqu'une tempête arrive, posez-vous la question, Dois-je la repousser maintenant, comme le Seigneur l'a fait? Dois-je simplement faire confiance au Seigneur et laisser me guider comme il l'a fait avec Pierre? Dois-je attendre patiemment dans la tempête, en sachant que quelqu'un attend sa délivrance de l'autre côté? Dans toute situation, nous devrions toujours marcher dans la foi et avoir confiance que les plans de Dieu se réaliseront quoi que ce soit. Amen. Les océanographes, c'est-à-dire ceux qui ont étudié la géographie de l'océan, disent quelque chose qui est révolutionnaire. Lorsqu'il y a une tempête à la mer, dans les océans, vous savez que les vagues peuvent monter jusqu'à 30, 40, 60, 100 mètres. Mais ils ont découvert que la tempête ne va guère en profondeur au-dessus de 8 mètres de profondeur. L'eau, elle bouge. Si vous êtes dans l'eau, il y a la tempête. Mais si vous descendez avec, par exemple, un sous-marin, en dessous de 8 mètres, l'eau est calme. Waouh! Même si vous êtes au milieu de la tempête, l'eau est aussi calme en dessous de 8 mètres, comme un étang, comme un lac tout calme. Amen. Voici ce qu'il faut retenir. Le seul endroit où vous trouverez la paix au milieu des tempêtes de la vie, c'est à travers une expérience dans les profondeurs de Dieu. Rappelez-vous dit que Paul dit que l'amour de Dieu est plus profond que les océans. Si vous êtes dans l'amour de Dieu, la Bible dit, l'amour chasse toute crainte. Pendant de nombreuses années, je n'ai jamais compris ce verset. Je pensais que si je marche dans l'amour, je n'aurais pas peur. Alors, on a tous des occasions d'avoir peur dans la vie. Mais j'ai compris autre chose. L'amour parfait, il n'y a que Dieu qui l'a. Si je sais que Dieu m'aime, j'ai plus besoin d'avoir peur, parce qu'il est toujours avec moi. Il me couvre de son amour. Si je suis dans les profondeurs de Dieu, à 8 mètres au moins en dessous dans l'océan, j'ai plus besoin d'avoir peur. Je suis dans le calme. Je suis couvert de la main bénissante de Dieu et je marche dans l'amour. Est-ce qu'on peut se lever quelques minutes, s'il vous plaît? Alléluia. Lorsque j'ai étudié ce message dans ma vie, il y a quelques années, cela a enlevé tellement de confusion dans ma vie. Moi, je suis un battant. Comme le disait Kenneth Hagin, I'm a winner. I hate to lose. Je suis un gagnant. Je déteste perdre. Son fils dit, I'm not a quitter. Je ne suis pas un qui abandonne vite. Mais des fois, quand on est des gagnants, on a l'impression qu'on doit toujours foncer. Et quand ça ne marche pas, dans le sens qu'on ne voit pas de changement, on peut vite tomber dans une confusion. Mais j'ai compris que quelquefois, il y a des tempêtes qui sont là, où je n'ai pas spécialement l'autorité, où je ne dois pas spécialement utiliser mon autorité pour l'enlever, mais je suis appelé à la traverser, à l'endurer, à prier en ce moment-là, ou simplement de dire, ok, je traverse, je ne fais rien. Jésus dormait au milieu de la tempête parce qu'il l'endurait avec une confiance dans le Seigneur. Je me rappelle de Lester Sumrall. Qui a entendu parler de Lester Sumrall? Il est venu dans mon église trois fois. Et ensuite, je l'ai porté au Luxembourg. Tu connais le Luxembourg? On a fait une campagne au Luxembourg. Et il raconte que c'est son neveu qui est pasteur à Manille, en Philippines, avec une grande méga église, racontait qu'à un certain moment, ils étaient en Chine, en mission. Et vous savez, en Chine, très souvent encore, on ne peut pas prêcher l'évangile ouvertement. On doit aller dans des églises clandestines. Et ils étaient là dans une église clandestine, à peu près comme celle-ci. Et tout d'un coup, on avertit, la police secrète est arrivée, il faut partir. Et tout le monde partait, courait de tous les côtés pour se cacher. Et le pasteur de Mani, donc le neveu de Somra, lui dit, viens mon oncle, on doit partir d'urgence. Et il raconte, j'étais sidéré quand j'ai vu mon oncle dire, on a le temps. Il marche à son aise. Oncle, on doit partir. On a le temps. Il était dans une paix totale parce qu'il avait confiance en Dieu. Waouh. Et nous devons apprendre à vivre dans cette confiance en Dieu, mes amis. Je vous l'ai dit, soit on a tous quitté une tempête déjà, ou d'autres, soit on est en train d'y entrer, soit on est en tempête maintenant, soit on ira dans une tempête. Mais nous devons apprendre à savoir comment les affronter. Et quelquefois, on croit toujours que la tempête, c'est comme un clou et qu'il faut taper dessus. Mais quelquefois, une tempête, excusez-moi de prendre, c'est une expression qui n'est pas tellement bonne, mais c'est comme un bon vin, on ne le secoue pas. Mais on le boit bien. Et on dit, je l'endure. Ne buvez pas du vin, vous avez compris ce que j'ai dit. Mais on ne secoue pas une bouteille de vin et on ne secoue pas la tempête. Des fois, on doit passer à travers, mais avec la confiance en Dieu. Quelquefois, on doit se dire, je ne sais pas ce qui se passe. Probablement, l'ennemi est là. Mais si je sais que c'est l'ennemi, alors je sais que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui m'attend et qui a besoin de moi. Est-ce qu'on veut prier ensemble, simplement, comme on est là, où on est, pour demander à Dieu de nous aider à affronter la tempête de la même manière que Jésus l'affronte, la même manière que Paul l'a affronté, la même manière que nous devons l'affronter, quelquefois en parlant, quelquefois en endurant, quelquefois en persévérant dans la prière. Quelquefois en se disant, je ne sais pas, qu'est-ce qui va se passer, mais je sais une chose, les eaux ne m'engloutiront pas, le feu ne me consumera pas, j'irai de l'autre côté et je serai plus que vainqueur. Mes amis, Dieu a un grand plan pour vous, quel que vous soyez. Et il dit, les plans, les desseins que j'ai pour vous se réaliseront. Et personne ne pourra les arrêter. La seule personne qui peut arrêter le plan de Dieu pour votre vie, c'est vous-même. Et quelquefois, on essaie de le faire parce qu'on essaie de se débattre, alors que tout ce qu'on doit faire, c'est d'attendre patiemment, de passer à travers, de ne pas se dire « Pourquoi je ne peux rien ?» Non, dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais je reste dans la confiance. » La Bible dit « C'est dans la confiance que sera votre salut. » Il dit quelquefois « Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. » Est-ce qu'on va prier ensemble? Amen. Si vous voulez lever les mains, si vous êtes d'accord avec Dieu, avec le message, levez les mains pour recevoir de Dieu. Dites, hallelujah. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie pour mon église ici au Québec, l'église de Sherbrooke, cette église que j'aime tellement, ces pasteurs que nous aimons tellement, Seigneur. Et nous te remercions pour la vie de pasteur Chantal, de pasteur Réal, leur famille, leurs petits-enfants, l'héritage qu'ils donnent autour d'eux, dans cette église et dans leur famille, qui sera un héritage qui va se manifester de génération en génération. Et Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus que chacun de nous qui sommes sous la protection spirituelle de nos pasteurs, que tu puisses nous aider à saisir analyser la tempête dans laquelle nous pouvons nous trouver et savoir comment tu veux que nous y fassions face. Seigneur, est-ce que je dois résister ou pas? Est-ce que je dois chasser ou pas? Est-ce que je dois me taire, avoir confiance? Est-ce que je dois persévérer dans la prière? Ou est-ce que je dois simplement endurer? Aide-nous à apprendre à ne pas compter toujours sur ce que nous savons faire, mais sur ta sagesse. Ta sagesse, c'est savoir ce qu'il faut faire au bon moment et c'est toi qui nous la donnes. Apprends-nous à être dépendants de la sagesse de Dieu afin que nous puissions faire face aux tempêtes de notre vie et à ressortir vainqueurs. Le point commun de chaque manière d'affronter la tempête que nous avons vue, c'est qu'à la fin, nous étions victorieux. Et à la fin, nous serons victorieux, Père, si nous suivons tes voies et pas nos voies. Si nous apprenons à marcher avec ta direction et pas notre direction. Et Seigneur, si malheureusement une tempête est causée par notre propre rébellion. Je te demande de nous révéler, et je dis cela parce que je sais, Père, que je ne connais aucun rebelle qui est conscient d'être rebelle. Et quand leur pasteur le dit, tu es rebelle, ils disent non. Mais que tu nous révèles s'il y a rébellion dans notre cœur et que nous ayons le courage de te demander pardon et parler avec notre pasteur pour aussi qu'elle nous aide à mettre en place les choses dans notre vie. Mais dans ce cas-là, Père, que tu puisses me pardonner directement afin que je puisse sortir de cette tempête. Je te demande dans le nom de Jésus. Donc, je ne vais pas demander aux rebelles de lever la main. Je ne pense pas qu'il y en a. Mais si jamais vous arrivez à comprendre que peut-être qu'il y a certaines choses que vous avez faites, ce n'est pas une rébellion spécialement contre l'Église ou contre votre pasteur. Ça peut être une rébellion par rapport à Dieu lui-même. Il vous a demandé de faire quelque chose, vous avez dit non. Mais vous ne pouvez pas vivre dans la rébellion. Vous avez besoin de changer cela, de faire un changement, un arrangement dans votre vie pour que vous puissiez vous replacer dans la voie de Dieu. Et vous allez voir que vous allez vite sortir de la tempête comme Jonas est sorti de la tempête.